Chapitre 6. Les dames de Longbourne et celles de Netherfield ne tardèrent pas à se voir. Des visites réciproques furent faites et rendues, selon l'usage. Les manières engageantes de Mademoiselle Bennet plurent à Madame Hurst et à Miss Bingley, et bien qu'elles eussent trouvé Madame Bennet insupportable et les jeunes sœurs insipides, elles témoignèrent cependant aux deux aînées le désir de les voir souvent. Hélène reçut leurs attentions avec plaisir, mais Elisabeth, y voyant une certaine hauteur, même à l'égard de sa sœur, ne pouvait s'en accommoder, quoiqu'elle reconnût d'ailleurs le prix de leur bonté pour Hélène comme provenant probablement de l'influence du frère. Il était évident qu'en toutes occasions, M. Bingley témoignait à Hélène une préférence marquée. Elisabeth s'aperçut que sa sœur pensait à lui avec plaisir et ne tarderait pas à l'aimer sérieusement, mais elle sentit quelque joie à penser que le monde ne découvrirait pas facilement cette inclination, car Hélène unissait à une extrême sensibilité, une tranquillité d'âme et une humeur égale, qui la préservaient des soupçons des curieux. Elle confia cette pensée à Mademoiselle Lucas. « On peut désirer, en pareil cas, répondit Charlotte, de cacher au public ses sentiments, mais quelquefois il y a un désavantage à être tellement sur ses gardes. Si une femme cache avec le même soin son inclination à celui qui en est l'objet, elle peut perdre les moyens de le fixer, et alors ce ne sera pour elle qu'une triste consolation de savoir que le monde ignore son chagrin. Il y a tant de reconnaissance ou de vanité dans un attachement en général qu'il n'est pas prudent de concentrer tout en soi. Nous commençons facilement. Une légère préférence est une chose naturelle, mais peu de personnes ont la constance de former un attachement sérieux sans quelque encouragement. Il y a mille circonstances où une femme fait mieux de témoigner plus qu'elle ne sent. Votre sœur plaît à M. Bingley, sur cela il ne peut y avoir de doute, mais il est bien possible qu'il en demeure là, à moins qu'elle ne l'aide un peu. Mais elle l'encourage autant que possible. Si moi je m'aperçois de la préférence qu'elle a pour lui, il faudrait qu'il fût bien simple pour ne pas le voir aussi. Rappelez-vous, Elisa, qu'il ne connaît pas comme vous le caractère de votre sœur. Mais si une femme éprouve un sentiment particulier pour un homme et ne cherche pas à le cacher, c'est à lui à le découvrir. Cela peut-être s'il la voit très souvent, mais bien que Bingley et Hélène se rencontrent fréquemment, ils ne sont jamais ensemble que quelques heures, et alors, entourés d'une nombreuse société, ils ne peuvent converser que de temps en temps l'un avec l'autre. Hélène devrait donc profiter des moments où elle le voit. Quand elle sera sûre de ses sentiments, alors elle pourra l'aimer tout à son aise. « Votre plan est fort bon, dit Elisabeth, lorsqu'il ne s'agit que du désir d'être bien mariée, et je l'adopterais, je crois, si j'étais déterminée à avoir un mari quelconque. Mais ce ne sont pas là les sentiments d'Hélène. Elle n'agit par aucun dessein prémédité. Je suis même très persuadée qu'elle ne croit pas jusqu'à présent être attachée à M. Bingley. Elle ne le connaît que depuis 15 jours. Ils ont dansé ensemble 4 contredanses à Meryton. Elle a dîné 5 fois avec lui. Ce n'est vraiment pas suffisant pour connaître le caractère d'un homme. Non, si elle n'eût fait que dîner avec lui, elle n'aurait pu que s'assurer quel était son appétit. Mais il faut vous rappeler qu'ils ont passé 5 soirées ensemble, et 5 soirées font beaucoup. Oui, ces 5 soirées les ont mis à même de savoir qu'ils préfèrent tous deux le 21 au jeu de commerce, mais je ne vois pas que par là ils se puissent bien connaître. Eh bien, dit Charlotte, je souhaite à Hélène bien du succès. Et si elle épousait M. Bingley demain, je pense qu'elle aurait autant de chances d'être heureuse que si elle eût étudié son caractère pendant 1 an. Le bonheur dans le mariage n'est que l'effet du hasard. Les personnes ont beau sympathiser avant de se marier, elles changent toujours trop tôt. Et selon moi, il est bon de connaître aussi peu que possible les défauts de celui avec lequel vous devez passer votre vie. Vous plaisantez, Charlotte, mais ce que vous dites n'est pas judicieux, vous le savez, et je suis sûr que vous ne vous conduiriez pas d'après ces maximes-là. Occupée à observer la conduite de M. Bingley envers Hélène, Elisabeth était loin de soupçonner qu'elle devenait elle-même un objet intéressant aux yeux de M. Darcy. D'abord, à peine avait-il avoué qu'elle fût jolie. Il la regarda au bal sans le moindre plaisir, et lorsqu'il la rencontra le jour suivant, il ne la considérait que pour la critiquer. Mais il n'eut pas plutôt démontré à ses amis qu'elle avait à peine un joli trait, qu'il s'aperçut que sa physionomie était remarquablement animée par l'expression de ses beaux yeux noirs. À cette découverte, il en succéda d'autres également mortifiantes. Bien qu'à force de chercher, il surprit quelques défauts dans ses formes, il se vit forcé d'avouer que sa taille, tout ensemble, était légère et gracieuse. Et après avoir assuré que ses manières n'étaient pas celles d'une femme du bel air, il se laissa séduire par son aisance et sa gaieté. Elle, de son côté, ignorant tout cela, ne voyait en lui que l'homme qui ne plaisait à personne et qui ne l'avait pas trouvée assez jolie pour la faire danser. Il désira la mieux connaître et, avant de discourir avec elle, voulut écouter sa conversation. Elle s'en aperçut bientôt. C'était chez Sir William Lucas, où une nombreuse société se trouvait assemblée. « Quel motif peut avoir Monsieur Darcy, dit-elle à Charlotte, de m'écouter ainsi lorsque je m'entretiens avec le colonel Forster ?» Voilà une question à laquelle Monsieur Darcy peut seul répondre. « Mais s'il m'écoute encore, je lui ferai certainement connaître que je m'en aperçois. Il a un regard très moqueur, et si je ne commence moi-même à être impertinente, il finira par m'intimider. » Un instant après, il s'approcha d'elle, mais sans paraître désirer leur parler. Mademoiselle Lucas, défiant alors son amie d'aborder ce sujet, Elisabeth se tourne vers lui et lui dit « Ne trouvez-vous pas, monsieur, que je me suis fort bien exprimée lorsque je demandais au colonel Forster de nous donner un bal ?»« Avec beaucoup d'énergie, mademoiselle, mais c'est un sujet qui rend toujours une dame éloquente. » Vous êtes un peu sévère envers notre sexe. Ce sera bientôt votre tour d'être tourmentée, dit Miss Lucas. Je vais ouvrir le piano, Elisa, et vous savez ce que cela veut dire. Pour une amie, vous êtes une étrange créature. Vous voulez toujours me faire chanter et jouer devant tout le monde. Si j'eusse désiré briller par la musique, vous seriez impayable. Mais comme il n'en est rien, je ne souhaite nullement jouer du piano devant des personnes accoutumées à entendre les meilleurs artistes. Mademoiselle Lucas l'ayant priée avec insistance, elle ajouta « Eh bien, puisque vous le voulez, il faut prendre son parti. » Et jetant un coup d'œil sérieux sur Monsieur Darcy, elle dit « Je m'attends à la critique, mais elle ne saurait me faire impression. » Elle jouait agréablement, mais après une ou deux ariettes, et avant qu'elle eût le temps de répondre aux instances qu'on lui fit de continuer, elle fut remplacée au piano par sa sœur Mary, qui, étant la seule de la famille qu'on ne put louer sur sa beauté, avait beaucoup travaillé pour acquérir du talent et était impatiente de le montrer. Mary n'avait ni goût ni génie, et encore que la vanité lui eût donné de l'application, elle lui avait donné un certain air de pédanterie et de suffisance qui aurait gâté un plus haut degré de perfection que celui qu'elle avait atteint. Elisabeth, simple, sans affectation, avait été écoutée avec plaisir, quoiqu'elle ne touchât pas, à beaucoup près, aussi bien que Mary. Mais celle-ci, à la fin d'un très long concerto, se trouva heureuse d'acheter quelques faibles louanges en jouant des airs écossais à la demande de ses sœurs cadettes, qui, avec les jeunes Lucas et quelques officiers, se mirent à danser dans un des coins du salon. Monsieur Darcy les regardait en silence, indigné d'une telle manière de passer la soirée, qui le privait de toute conversation, et trop absorbé dans ses pensées pour s'apercevoir que Sir William était près de lui. Mais Sir William lui adressa enfin la parole. « Voilà une charmante récréation pour les jeunes gens, Monsieur Darcy. Il n'y a rien après tout de comparable à la danse, et je la regarde comme un des plus grands raffinements de la civilisation. »« Je le crois, monsieur, et de plus, elle a l'avantage d'être en vogue parmi les peuples les moins civilisés. Les sauvages savent danser. » Sir William sourit. « Votre ami joue son rôle parfaitement bien, » continua-t-il après un moment de silence, en voyant M. Bingley joindre le groupe. « Et je ne doute nullement que vous ne soyez bien capable de suivre son exemple, M. Darcy. »« Il me semble, monsieur, que vous m'avez vu danser à Meryton. »« Oui, monsieur, et cela me fit grand plaisir. Dansez-vous souvent à Saint-James ?»« Jamais. »« Vous avez sans doute une maison en ville. » M. Darcy répondit par un salut affirmatif. J'avais eu quelque envie de me fixer à Londres, car j'aime la haute société, mais j'ai craint que l'air de la ville ne convainc pas à Lady Lucas. Il se tut, espérant recevoir une réponse, mais M. Darcy n'était pas disposé à lui en faire. Et en ce moment, Élisabeth s'étant approchée d'eux, il lui vint à l'idée une galanterie. Il l'appelle. « Ma chère Miss Elisa, lui dit-il, pourquoi ne dansez-vous pas ?»« Monsieur Darcy, vous me permettrez de vous présenter cette demoiselle comme une danseuse fort désirable. Vous ne pouvez refuser de danser, je suis sûr, lorsqu'une si jolie femme est devant vous. » Et prenant la main d'Élisabeth, il la donna à Monsieur Darcy, qui, bien que surpris, n'était pas fâché de la recevoir. Mais elle se retira en arrière et dit avec embarras à Sir William, « En vérité, monsieur, je n'ai point envie de danser. Je vous conjure de ne pas croire que je me sois avancé de ce côté-ci pour mendier un danseur. » Monsieur Darcy, avec gravité, la pria de l'honorer de sa main, mais ce fut inutilement. Élisabeth était décidée, et Sir William essaya en vain de changer sa résolution. « Vous dansez si bien, mademoiselle. Par votre refus, vous me privez d'un vrai plaisir. » Et quoique monsieur ait en général peu de goût pour cet exercice, il ne peut se refuser à nous obliger pendant une demi-heure. Monsieur Darcy est un modèle de civilité, dit Élisabeth en souriant. Cela est vrai, mais considérant le motif, mademoiselle, on ne saurait s'étonner de sa complaisance. Qui est-ce qui pourrait refuser une telle danseuse? Élisabeth le regarda d'un air malin et s'éloigna. Son refus ne lui avait pas nui auprès de Monsieur Darcy, au contraire. Il pensait à elle avec plaisir lorsqu'il fut joint par Mademoiselle Bingley. « Je devine le sujet de votre rêverie, lui dit-elle. « Je ne le crois pas, mademoiselle. Vous pensez combien il serait ennuyeux de passer beaucoup de soirées comme celle-ci avec une pareille société. Je suis bien de votre avis, je ne m'étais jamais autant ennuyé. L'insipidité et le bruit... La petitesse et cependant la prétention de tous ces gens-là, que ne donnerais-je pas pour vous entendre les critiquer ? Vous conjecturez mal, je vous jure. Mon imagination était plus agréablement occupée. Je méditais sur l'extrême plaisir que peuvent causer les beaux yeux d'une jolie femme. » Mademoiselle Bingley le regarda fixement et manifesta le désir de savoir laquelle de ces deux dames avait su lui inspirer ses réflexions. Monsieur Darcy répondit avec assurance. « Mademoiselle Élisabeth Bennet. »« Élisabeth Bennet ? » répéta Miss Bingley. « Vous m'étonnez beaucoup. Et depuis quand a-t-elle ce bonheur ? Quand pourra-t-on vous faire compliment du vôtre ?» Voilà justement la question à laquelle je m'attendais. L'imagination d'une femme est bien vive. Elle passe en un instant de l'admiration à l'amour, et de l'amour au mariage. Je prévoyais votre compliment. « Oh, oh, si vous êtes si sérieux, je croirais que c'est un parti pris absolument. Vous aurez vraiment une charmante belle-mère, qui, sans doute, sera toujours avec vous à Pemberley. » Il l'écoutait avec une parfaite indifférence, et cette tranquillité l'ayant rassurée, elle s'égaya longtemps sur le même sujet.